Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on vous remercie hein, d'être venus ici et surtout de nous inviter enfin en Belgique, à Bruxelles. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec nos amis belges qu'on affectionne tout particulièrement et on les remercie vraiment beaucoup d'avoir fait tous ces efforts pour nous accueillir ici et nous permettre de découvrir déjà une nouvelle ville et de permettre à la RIM aussi de s'étendre un peu en Europe. Donc ça nous permet vraiment une belle expérience. Alors aujourd'hui, le but c'est de présenter l'association, de présenter le Moutazilisme, donc faire une introduction générale qu'on a déjà faite aussi à Lyon. On était à Lyon début décembre, donc on essaye un petit peu de commencer par là pour ensuite effectivement poursuivre sur d'autres cercles de discussion qui porteront sur des thèmes un peu plus précis. Pour ceux qui n'ont jamais assisté à des cercles de discussion de la RIM, en général, donc on fait avec Facker une petite conférence d'une trentaine de minutes, 1 heure à peu près, sur le thème du jour, et ensuite on vous donne la parole où chacun pourra s'exprimer sur ce qu'on a dit, sur le sujet du jour. Alors la RIM, donc l'Association pour la Renaissance de l'Islam Moutazilite, a été créée en 2017. On va bientôt avoir 2 ans. On a commencé à faire des cercles de discussion sur Paris d'abord, parce que c'est là-bas que nous résidons, et on essaye un petit peu donc de traiter des thèmes sur le moutazilisme en particulier, et d'essayer de voir comment on peut adapter cette thématique au temps présent. Alors le moutazilisme, c'est un courant dit rationaliste de l'islam. Alors, qui estime que la raison est la meilleure des preuves. La raison est le fondement de la foi. Et c'est cette approche rationnelle, elle est issue d'une grande divergence qui existe en islam entre 2 types de groupes, ceux qu'on appelle les Ahl al-Ra'y, c'est-à-dire les partisans de l'interprétation personnelle, de la raison, et les Ahl al-Hadith, c'est-à-dire les partisans de la tradition et plutôt de l'imitation des textes et de l'imitation des générations anciennes. Cette raison, le fait d'avoir une approche rationnelle de la foi, n'empêche absolument pas la spiritualité, c'est au contraire quelque chose qui va l'affiner et qui va plutôt l'approfondir et qui va voir la libérer pour explorer de nouvelles possibilités. Alors la question récurrente qu'on a quand on présente au moutazilisme, c'est de savoir qu'est-ce que la raison, justement, parce que c'est quand même un grand concept de l'humanité qui a énormément fait couler d'encre. En arabe, on parle du aql. Il faut savoir d'abord qu'il n'y a pas que le moutazilisme en islam qui est un courant dit rationaliste. Le chiisme aussi, une partie du chiisme, s'est largement inspiré du rationalisme. Et justement, là, je vais un peu en profiter de voir comment la notion de raison a évolué en fait au fur et à mesure du temps. Alors récemment, j'ai acheté un ouvrage de Mohamed Ali Amir Mouhedi, qui a écrit un ouvrage sur le guide divin dans le chiisme originel. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande, hein, qui est très intéressant pour connaître les origines du chiisme. Et justement, il fait tout un passage sur qu'est-ce que la raison en islam et comment ça a été compris notamment à travers le chiisme. Alors pour en revenir au début, l'étymologie, le hacle, c'est le lien qui servait à tenir les chevaux ensemble au temps des tribus. Le terme hacle n'est pas présent en tant que nom dans le Coran, c'est souvent sous la forme du verbe qu'on le retrouve, donc le fait qui peut se traduire comme ceux qui font le lien. Donc on peut traduire ce terme de aql pas tellement par raison, je dirais, mais plutôt par intellect et intelligence, plus qu'une raison purement cartésienne en fait. Et en réalité, on verra en fait que le aql islamique va prendre à la fois la coloration d'une raison cartésienne très analytique, très progressive, et à la fois le sens d'une raison plus intuitive en fait et plus synthétique, plus globale. Donc pour remonter un petit peu au tout début, au temps pré-islamique, la raison, ça signifiait davantage le bon sens, c'est-à-dire le bon sens qui empêche l'être humain de dire des sottises. Globalement, ça c'était compris vraiment à la base de ce point de vue-là. Puis cette conception, elle a été islamisée avec l'apparition de l'islam, et notamment chez les chiites au départ, la raison intuitive était le seul moyen d'approche, le seul moyen de l'intelligence pour comprendre l'enseignement des imams et l'enseignement aussi du Coran. Et on retrouve beaucoup de traditions, hein, donc notamment chiites, qui affirment que le Aql est l'axe de notre religion, que le Aql est l'axe autour duquel tourne la vérité, et ce sur quoi doit s'appuyer l'enseignement. Et le Aql est conçu comme une créature qui a la précédence sur les autres créatures, et qui procéderait même de la lumière divine. Donc on a tous ces éléments au départ, où le Aql va être conçu comme un organe subtil, la raison va être conçue comme un organe subtil, une hiéro-intelligence, c'est-à-dire une intelligence sacrée, une intuition profonde, très spirituelle, et pas encore comme une raison cartésienne, au sens où on peut l'entendre les Grecs. Avant de devenir une faculté de raisonnement dialectique, c'est d'abord, historiquement parlant, hein, je parle, une faculté d'appréhension du divin, la faculté d'avoir une vision intérieure, une lumière dans le cœur qui permet de voir les signes divins, d'y être attentif et d'utiliser son discernement naturel. C'est en quelque sorte une conscience du sacré et la conscience un petit peu de l'être humain. Alors, vers le 9e siècle, les choses évoluent. Le Aql, la raison, subit un glissement sémantique avec notamment l'influence des Moutazilites qui vont utiliser les textes aristotéliciens et pour comprendre d'une autre manière la notion de Aql. Et là, on voit apparaître le Aql comme une notion de faculté dialectique, celle qu'on appelle la discipline du Kalem, de la spéculation rationnelle pour essayer de comprendre Dieu. Et le moutazilisme va influencer le chiisme du haut décimain essentiellement, qui va rationaliser le chiisme au Xe, XIe siècle sous l'impulsion du cher El-Moufid, et qui va progressivement enlever tout ce qui relève des traditions occultes et ésotériques qui vont être relayées à partir de ce siècle par plutôt la branche du chiisme qu'on appelle l'ismaélisme. Alors personnellement, pour moi, c'est deux conceptions du Aql, hein, d'un côté un Aql plus une raison intuitive, de l'autre une raison analytique, à mon avis, ce sont des éléments qui peuvent parfaitement se concilier au sein même d'un individu, hein, c'est pas des choses forcément qui vont s'opposer. Alors, pour en revenir, donc là je vous ai présenté vraiment ce qu'on pouvait entendre par rationalisme, donc par rapport à la rime, à l'association qu'on a créée par rapport à ce courant théologique, on a trois objectifs. C'est un objectif culturel qui consiste à faire connaître déjà ce courant qui aujourd'hui est méconnu, à montrer qu'il y a un pluralisme théologique en islam, donc montrer qu'il n'y a pas seulement une seule version de la théologie islamique. On a aussi un objectif intellectuel, c'est-à-dire de reconstruire une pensée religieuse en islam, à partir notamment des apports des sciences humaines et sociales actuelles. Et un objectif aussi spirituel, le but n'est pas de tout déconstruire sans rien reconstruire derrière, mais c'est de permettre aussi une autre façon d'être musulman. Alors je fais d'abord un bref aperçu historique, et ensuite on présentera ce qu'on appelle les cinq principes du moutazilisme. Je commencerai par les deux premiers, et ensuite Fakir poursuivra. Alors, les débuts du moutazilisme, ça apparaît au 7e-8e siècle. Il y a plusieurs débats autour de l'origine du nom Ihtizal, qui signifie se séparer. Alors il y a plusieurs traditions, je ne reviens pas en détail là-dessus, mais soit ça a été le fait de vouloir s'écarter des luttes de l'époque entre pro et anti-Omeyyade, et on a une autre tradition où le fondateur officiel du moutazilisme, Wasil Ben Atta, ou bien son associé Amr Ben Ubayd, se serait séparé de son maître Al-Hassan El-Basri, au sujet de la dénomination à donner à un musulman ayant commis une faute majeure. Fakir pourra revenir là-dessus tout à l'heure. On a d'abord deux écoles géographiques qui vont se distinguer. L'école de Basra, qui était plus partisan du kalam, c'est-à-dire d'une spéculation théologique assez forte, une forte abstraction théologique, qui se sont un peu retirés dans une très grande complexité et un grand élitisme. Et on a une autre école, c'est l'école de Bagdad, qui va se caractériser par un fort ascétisme au niveau des pratiques, qui va se rapprocher des pratiques soufis, qu'on appelait les soufiyat Mantazila, avec le plus grand représentant, c'est Abu Mandar, qui est mort en 841, qu'on surnommait le moine des Moutazilites. Et lui, il qualifiait tout croyant qui fréquentait trop le prince, le pouvoir, était qualifié, selon lui, de mécréant. Et en fait, il reprochait aux partisans de l'école de Basra le fait d'être justement trop proche des pouvoirs politiques, et il voulait plus, lui, se rapprocher du peuple. Il reprochait le trop grand élitisme des Mu'tazilites de Basra. Lui, il voulait vraiment se rapprocher de la masse et de faire comprendre un petit peu les grands concepts au plus grand nombre. Alors ensuite, on passe au 9e siècle, où le Mu'tazilisme va s'allier en partie justement avec le pouvoir. Sous le règne d'Al-Ma'mun, entre 813 et 833, c'est le temps de ce qu'on appelle la Mihna, où on va imposer aux oulémas la doctrine du Coran créé. Je reviendrai là-dessus. Donc on va imposer certaines sanctions professionnelles à ces oulémas qui ne professent pas la doctrine du Coran créé, avec notamment le juge suprême de la Mihna de l'époque, hein, qui était un Mu'tazilite. Alors, il faut faire quelques nuances aussi. Al-Ma'un s'est aussi entouré, dans le cadre de sa politique, de non-Mu'tazilites, notamment Bishr el-Marisi, qui n'était pas un Mu'tazilite, qui était plutôt partisan, au contraire, du déterminisme. Donc on est dans un contexte vraiment particulier, en fait. Al-Ma'un, il a voulu, en fait, établir cette mihna dans le cadre d'une concurrence des pouvoirs à l'époque. C'est-à-dire que, d'un côté, vous aviez les oulémas, les savants de l'islam qui faisaient concurrence au pouvoir califal. Les oulémas, ils se voyaient comme les successeurs du prophète. Et Al-Ma'mun, en réaction en fait, à ces oulémas, a voulu absolutiser son pouvoir. Et il voulait être le seul à dicter le dogme officiel. Alors, ce qui a été retenu dans la postérité, c'est toujours la résistance de Ahmad ibn Hanbal, qui est mort en 855, et qui a été emprisonné sous la reine d'Al-Ma'mun. Et on a retenu cette résistance qui a su s'attirer les foules à cette époque. Ensuite, donc, cette mihna va continuer sous les deux règnes, Al-Mu'tasim et Al-Wathiq, et arrive un autre calife, Al-Mutawakkil, qui, dans les années 840, va mettre fin à cette période et va condamner officiellement le mutazilisme. Alors, je précise quelque chose de très important, c'est que nous, dans le cadre de la RIM, on condamne formellement tout dogmatisme, d'où qu'il vienne. Je ne vois pas trop l'intérêt de critiquer le dogmatisme de ceux qui ne sont pas mutazilites si on s'y met, aussi. Ces erreurs sont des erreurs du passé. Nous, on vit au XXIe siècle. Il est important de connaître cette histoire, mais nous, on vit dans notre temps. Donc tous les procès d'intention qui viseraient à nous accuser de vouloir imposer aujourd'hui une mihna mutazilite au XXIe siècle, c'est au mieux très puéril, au pire presque de la diffamation. Donc il faut être clair aussi sur ces éléments-là. Alors, pour finir un petit peu la période, à la fin du XIe siècle au Xe siècle, en réaction à cette effervescence théologique et au pluralisme théologique, le sunnisme officiel va progressivement se structurer et donc va structurer plusieurs dogmes en fait, en opposition à tout ce qui se faisait à l'époque. Donc on va mettre dans le dogme sunnite officiel la prédestination pour s'opposer aux Mu'tazilites, l'interdiction aussi d'insulter les compagnons du prophète pour s'opposer à l'époque aux chiites, le Coran incréé pour s'opposer aux Mu'tazilites, etc. Donc on essaye, c'est vraiment une réaction en opposition à ce qui se faisait à l'époque. Est né à ce moment-là un nouveau courant théologique, c'est l'acharisme, sous l'impulsion de Abul Hassan el-Ash'ari, donc qui était Mu'tazilite mais qui a renié sa foi Mu'tazilite pour créer une nouvelle conception de la théologie, en rejetant en fait principalement le libre arbitre de l'être humain. Et ce petit aperçu historique se termine, je dirais, au XIe siècle. Où là, du point de vue de l'école mutazilite, on commence à écrire et à conceptualiser vraiment ce que sont les principes du mutazilite avec le Qadi Abdel Jabbar, qui est mort en 1025, et qui lui va écrire le livre des 5 fondements mutazilites qu'on va vous présenter. Et au XIe siècle, il faut aussi retenir la hanbalisation du pouvoir, où le calife Al-Qadir, en 1017, impose un décret, en fait, une risala, qui va condamner non seulement le mutazilisme, mais pas seulement, qui va aussi condamner l'acharisme et le chiisme. Donc c'est là plutôt la victoire hein, des partisans de l'imitation, des traditions sur l'usage de la raison. Donc voilà pour ces éléments. Maintenant, donc, ces fameux 5 principes, les mutazilites ont toujours été qualifiés du petit surnom les Ahl al-Tahwid ou al-Adl, c'est-à-dire les partisans de l'unicité divine et de la justice divine. Donc parce que ce sont les deux premiers principes desquels vont en découler 3 autres. Donc d'abord, l'unicité absolue de Dieu, ça signifie que Dieu est un et il est réellement un. Le but, c'est d'être cohérent et logique avec le dogme fondamental de l'islam, le tawhid, c'est-à-dire qu'il faut préserver cette unité de Dieu. dans la réflexion abstraite qu'on a sur lui. Et en fait, les Mu'tazilites sont connus pour avoir poussé à l'extrême la logique, et ça a eu plusieurs conséquences, notamment la négation des attributs divins, la notion de sifat, donc les attributs des qualités divines, qui, pour les Mu'tazilites, ne sont que des modes de réflexion, des catégories de l'esprit humain qu'on a créées pour nous faire une meilleure idée en fait, de Dieu. Donc Dieu n'est pas voyant par sa vue. Ces attributs, ce sont pas des qualités parfaites qui existeraient à côté de Dieu. Dieu est voyant et sage grâce à son essence, et rien n'est distinct de lui. Deuxième conséquence, c'est le fameux Coran créé. Ça signifie, alors cela ne signifie absolument pas que le Coran n'a aucune valeur et qu'il faudrait le jeter aux oubliettes. On estime que le Coran est une création de Dieu, comme les astres, les êtres humains. Le Coran est apparu donc à un moment donné. Il porte la trace de son contexte de naissance. Donc si on reconnaît que le Coran est incréé, on en fait plutôt un co-éternel à Dieu, et donc c'est en incohérence logique avec le tawhid. Donc non seulement la lettre du Coran elle est créée, les mots sont humains, mais l'esprit aussi du Coran est créé. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur nous aujourd'hui ? Si le Coran est empreint de son contexte de création, il peut aussi être soumis à la raison, à la réflexion, à la méditation. On peut donc aller au-delà de la lettre et on peut l'étudier en le soumettant à l'esprit humain et aux disciplines actuelles des sciences humaines, de la philosophie. Donc on peut l'adapter au temps présent. Et ça amène aussi à concevoir le sceau des prophètes, le Khatm al-Nubuwa, de manière différente. Notamment le penseur iranien Abdelkarim Soroush, le penseur actuel iranien, qui s'est déclaré néo-Mu'tazilite. Pour lui, le sceau, la fin de la révélation coranique, donne un point de départ à l'émancipation des êtres humains. Le début d'une nouvelle ère, et non, ça ne marque pas le point d'arrivée parfait. À la fin de cette prophétie, en fait, Dieu s'est arrêté de parler aux êtres humains. Donc comment faire en tant qu'être humain si Dieu ne nous parle plus, ne nous donne plus d'indications claires ? La conception classique en islam est de dire on s'arrête au temps de la révélation, au 7e siècle, c'est une réaction plutôt conservatrice, ou bien il y a une autre conception qui est possible, au contraire, on prolonge le Coran en lui donnant de nouvelles interprétations. Donc les nouvelles générations sont incitées à penser par elles-mêmes, à faire sortir la raison de sa minorité pour prolonger le texte coranique et le recréer sans cesse par nos interprétations et de se libérer un petit peu de l'imitation des anciennes générations. Alors je cite toujours la même citation d'Abdelkarim Soroush, mais elle me paraît vraiment importante pour comprendre comment on peut aujourd'hui adapter le mu'tazilisme à notre époque. Il dit la chose suivante, nous sommes toujours plongés dans un océan d'interprétation, le texte ne nous parle pas. Vous devrez le faire parler en lui posant des questions. Si les questions sont pertinentes, les réponses aussi seront profondes. Aussi donc, l'interprétation dépend de nous. La révélation ne nous montre pas ses secrets en nous parlant directement. Nous devons nous mettre en recherche de ces secrets et trouver les bijoux qui sont cachés là. Donc il y a vraiment une démarche de la part du croyant active pour aller vers le Coran et non pas se contenter d'imiter. Et le deuxième principe mu'tazilite, c'est la justice divine. Dieu est certes tout-puissant, mais il est aussi sage et il est absolument juste. Donc, quelles conséquences a la justice divine sur nous, êtres humains ? Notre libre arbitre, notre liberté. Sinon, l'idée de jugement en dernier n'aurait aucun sens. Il n'y a aucun sens de juger un automate programmé d'avance. Cela n'aurait aucun intérêt si nous n'étions pas responsables de nos actes. Et il y a un lien, je dirais, à faire ici avec deux passages coraniques fondamentaux. Lorsque Adam est nommé à la charge de successeur et d'héritier, le khalifa, et lorsque l'être humain accepte de porter el-amana, c'est-à-dire le dépôt confié que les montagnes, les cieux, la terre ont refusé de porter. Dans ces deux cas, on a l'image du passage de relais où Dieu offre à l'être humain une part de sa puissance et une responsabilité. Donc Dieu témoigne à l'homme d'une justice infinie, d'un amour infini. Dieu accepte finalement de laisser quelque part sa place à l'être humain. Et il lui offre la capacité de prendre possession de sa liberté et de sa conscience. Donc ça permet aussi de revisiter un peu ce qu'on entend par el-iman, c'est-à-dire la foi, Pour Maurice Glotton, le terme arabe, traduit généralement par la croyance, ne signifie pas exactement ça. La croyance au sens où on croit qu'une chose existe, mais c'est plutôt dans le sens d'une mise en œuvre du dépôt confié par Dieu à l'humanité, donc El Amana, c'est-à-dire faire preuve de loyauté, de fidélité, de tenir parole. C'est-à-dire que l'être humain, par sa foi et ses actes, est amené à témoigner de sa gratitude envers Dieu, de lui avoir laissé ce cadeau, ce don de Dieu, celui vraiment de la liberté humaine. Donc voilà pour ces deux principes. Donc je laisse la parole à Fakir pour présenter la suite.
Merci Eva. Donc c'était très, très enrichissant. C'est vrai que les deux premiers principes qu'a présenté Eva sont les deux principes qui sont déterminants, qui caractérisent le plus le mutazilisme. Et c'est, comme a dit Eva aussi, on appelait les mutazila al-al-ad al-tawhid ou al-tawhid al-ad. Donc c'était vraiment les deux traits les plus importants. Après, il y a ces deux fondements, clairement, et puis il y a trois corollaires. J'insiste bien sur le mot corollaire, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants de ces deux premiers fondements, c'est des sortes d'extensions de ces deux premiers fondements. Le premier corollaire, c'est l'ouad al-waid, la promesse et la menace, sous-entendu la promesse du paradis et la menace de l'enfer. Le quatrième, c'est al-manzila bayna al-manzilatayn, la demeure entre les deux demeures. Autrement dit, entre la foi, entre la fidélité et la mécréance, il y a une autre possibilité, je reviendrai dessus. Et puis le dernier, qui est aussi très important et qui a beaucoup été utilisé sur les questions politiques, c'est l'amr bil ma'ruf wa nahy an munkar. Ça veut dire l'ordonnancement de faire, ou l'ordre de faire le bien, ou le convenable, pardon, convenable, c'est le vrai mot, et l'interdiction du blâmable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ils sont, quand on y pense, ces trois corollaires comme ce sont des corollaires, ils sont en rapport direct avec les deux premiers principes. L'ouad al-wa'id, c'est la promesse du paradis et la menace de l'enfer. Donc l'idée, c'est de dire, pour les gens qui méritent, pour les gens qui auront fait les actions, ils récolteront ce qu'ils auront semé. Et la question n'est pas de savoir s'ils sont musulmans ou pas musulmans. La question est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, quels sont leurs actes. Si vous êtes, l'idée sous-entendue derrière ce principe, c'est de dire, si vous êtes croyant véritable, si vous êtes vraiment fidèle à votre engagement de foi, vous devez avoir un comportement qui traduise cet engagement-là, qui traduise cette croyance-là. Et dans cette croyance, Dieu, puisqu'il est juste, n'ordonne pas le mauvais, qabih, qu'il ne fait pas ce qui est mauvais, il ne nous ordonne pas non plus de faire ce qui est mauvais. On se doit de faire le bien du mieux possible. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que dire « je suis musulman, il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète » et derrière commettre les pires crimes et se dire « c'est pas grave, de toute façon je suis musulman, j'irai au paradis, même si je passe un moment en enfer », non. Les descriptions coraniques disent « toute personne qui rentre en enfer, elle y rentre éternellement ». Il n'y a pas de « j'y rentre pendant une période pour me laver, après je repars ». Il y a même un verset coranique qui rappelle qu'il y a des gens qui disent « nous irons en enfer que pour une période donnée » et après, non. Quand vous allez, Dieu vous préserve, Dieu vous préserve, ceux et celles qui vont en enfer ou qui iront en enfer, ils y vont éternellement. Il n'y a pas de… et peu importe qu'on soit musulman ou pas musulman. Ce sont nos actes qui comptent. Comme vous l'a dit tout à l'heure Eva, la raison est la première des preuves. Ça veut dire que par le biais de la raison, nous pouvons savoir, comprendre ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et donc il y a ici un travail de la raison, et ce qui fait que quelqu'un qui est méritant, qui aura fait le bien sans être musulman, peut aussi, et normalement sera, récompensé par Dieu, puisque c'est l'engagement divin. Pas moi qui oblige Dieu à quoi que ce soit, c'est l'engagement divin, c'est ce que dit le Coran, tout simplement. De même, celui qui se dit musulman, celui ou celle qui se dit musulman ou musulmane, mais qui commet les pires atrocités, le Coran dit bien que quand il décrit ceux qui vont aller au paradis ou en enfer, il décrit à partir ceux qui vont au paradis, il y a des fois des descriptions de croyances, mais cette croyance, elle est toujours indexée sur un comportement qui va avec. Je vous renvoie au Sourate al-Baqara. Donc, Sourate 2, verset 177, qu'on appelle Ayat al-Birr. Ayat al-Birr, le verset de la piété. Verset de la piété rappelle bien laisse le birra an tawallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi, etc. Ça veut dire le summum de la piété n'est pas de tourner vos têtes vers le couchant ou le levant, autrement dit ce n'est pas le rite, mais le summum de la piété c'est la foi, la croyance, c'est-à-dire croire en Dieu, aux anges, aux livres, aux prophètes et au jour du jugement, et d'agir conformément à cette croyance, c'est-à-dire de s'ouvrir, donc d'aider les pauvres, d'aider ceux qui sont dans le besoin, d'affranchir les esclaves, etc. On est dans cette logique-là. Et ce n'est qu'après, à la fin, où il y a effectivement évocation de la salette, donc les actes rituels, de la prière, etc., du jeûne, etc. Donc, ici, ce qui est très important, le Wadul Eid, c'est vous êtes croyant, il faut que vos actes soient en conformité avec ce qu'il y a dans votre cœur. Et donc, si vos actes ne sont pas en conformité, c'est l'enfer. Si vous avez fait des choses mauvaises, hein, forcément. C'est l'enfer, et ceux qui entrent en enfer y entrent définitivement, et ceux qui entrent au paradis y entrent définitivement. C'est ce que nous dit ce que nous disent les versets coraniques. Après, Dieu étant Rahman Rahim, Dieu étant compassion, compatissant, clémence, pardon, amour, sécurité, tout ce qu'on veut, derrière cette notion-là de Rahim, Dieu, après, forcément, il peut tout, et après, ce sera à lui de décider, clairement. Mais les versets coraniques sont porteurs d'un enseignement, et cet enseignement, c'est celui-là. On sera châtié ou récompensé en fonction de nos actes. Ça, c'est très important. Quatrième principe, qu'est-ce qui se passe si un musulman commet un péché grave? Comme je l'ai dit, « Wa'adul wa'id, promesse du paradis, menace de l'enfer », d'accord. Mais le croyant qui est croyant et qui commet un péché grave, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un débat à l'époque, donc à l'époque de Wasl ibn Atta, on est au 8e siècle, entre deux grandes tendances, la tendance qu'on va appeler les Kharijites et la tendance des Mourdites. Les Kharijites disaient, ceux qui commettent un péché grave, qui se disent musulmans, donc des croyants, eux, ce sont des hypocrites, ils vont aller en enfer. Il y avait la tendance des Mourjites qui disait, Mourji'a, il disait, celui qui commet une faute grave, après tout, c'est infidèle et c'est seulement à Dieu de décider. C'est Dieu qui décidera s'il va aller en enfer ou non, ça revient à Dieu. Mais nous, on ne peut pas dire que ce n'est plus un croyant. La position de Wasl, ça a été de dire, en fait, le musulman coupable d'une faute grave, il occupe la demeure entre les deux, entre la fidélité et la mécréance. Tant qu'il est vivant, on le considère comme fesq, criminel, délinquant. Mais s'il se repent, il corrige sa faute, tauba, après tout la tauba est très importante en islam, s'il recourt à la tauba, alors dans ce cas-là, on le considère comme un croyant comme les autres. Il réintègre le cercle de la foi, parce que l'idée sous-entendue, c'est de dire, il y a plusieurs idées en réalité. D'abord, juger est très compliqué, mais en même temps, ne pas juger l'est peut-être tout aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va commettre un péché grave, une faute grave, qui va commettre un crime, on ne va pas se dire « Ah ben, on ne peut pas avoir d'avis. » Quelqu'un qui va tuer ou massacrer ou faire des choses, forcément, on va avoir un avis. La question, c'est, certes, il y a un avis, mais il y a possibilité de rachat. Donc, on n'est pas condamné à la gêne tout de suite. Il y a possibilité de rachat tant que la personne est vivante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on m'a fait la remarque une fois, « Manzila ben al-Manzilatayn, la demeure intermédiaire, n'est pas une question métaphysique ou eschatologique, enfin métaphysique. Ce n'est pas une question eschatologique, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec la fin, ce n'est pas une sorte de demeure qu'on va occuper après la vie, avant le jugement dernier, une sorte de limbe, voilà, purgatoire, comme ça existe chez les catholiques. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est purement fonctionnel, c'est maintenant dans notre vie, dans notre monde. C'est-à-dire que, avant, n'oubliez pas qu'à l'époque, c'était indexé aussi sur le fait que les droits des gens, les droits civiques, entre guillemets, c'est un anachronisme complet, mais enfin, assumons. Les droits des gens étaient indexés sur leur appartenance religieuse. En fonction de votre appartenance religieuse, vous avez le droit de témoigner, droit d'avoir des biens, droit de ceci, droit de cela. Donc c'était une question très importante. Notre lecture aujourd'hui, c'est de dire que la possibilité de la seconde chance du rachat, elle est pérennisée, elle est reconnue, elle est là, elle est même conceptualisée. On peut se tromper. Nous sommes des êtres humains, et le Coran nous dit. Nous sommes faibles, une scène d'arrive. On le sait, on peut se tromper, mais en fait, si on se trompe, il ne faut pas qu'on s'arrête à cette erreur, et il faut toujours essayer de voir en quoi on peut s'améliorer, en quoi on peut changer, en quoi on peut racheter la faute et aller de l'avant. Mezila Benamezila Taïn, donc la demeure entre les deux demeures, tient, c'est notre interprétation aujourd'hui plus, tient plutôt dans ce sens-là. Le fait de reconnaître la possibilité de se tromper, mais aussi de racheter ses erreurs et d'aller de l'avant. Dernier principe, corollaire, l'ordre de faire le convenable et d'interdire le blâmable, al-amr bil ma'ruf wa nahy an munkar, c'est un champ qui est gigantesque. Pourquoi c'est un champ qui est gigantesque? Traditionnellement, ce champ-là, ce domaine-là, a servi à poser la question de l'imama. L'imama, c'est-à-dire du califat. C'est-à-dire, c'était une reconnaissance politique. Déjà, première question, est-ce qu'on reconnaît le califat comme une obligation religieuse? Est-ce qu'on reconnaît l'établissement d'un État, ou est-ce qu'on reconnaît qu'un État doit être établi sur des règles religieuses? Traditionnellement, les musulmans, dans le Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar, c'est tiré des versets coraniques, hein, donc tous les musulmans connaissent ça. Généralement, on a utilisé cette idée-là pour parler de l'ordre politique. Et donc, pour justifier un ordre califal. C'est-à-dire, pour les sunnites classiques, l'idée c'était de dire, effectivement, un État musulman, c'est-à-dire un califat, est une obligation religieuse. Et l'imam, celui qui a le plus de droit d'être un imam, doit être un membre de la tribu Quraysh, la même tribu que le prophète. Les chiites ont dit, effectivement, le califat est une obligation religieuse, et celui qui doit être le calife, le plus en droit d'être calife, est un descendant de Ali et de Fatima, de Ahl al-Bayt. Il y a les Khawarij, les Kharijites, qui eux ont dit, le califat n'est pas forcément une obligation, certains d'entre eux ont dit ça, mais la plupart ont dit, c'est une obligation, mais doit être calife le plus méritant des musulmans. Et peu importe son origine, peu importe d'où il vient, ça doit être un musulman, clairement, mais le plus méritant possible. Et il y a un groupe parmi les Kharijites, donc, qui a dit, le califat n'est pas forcément une obligation. Et c'est aussi la version d'une partie des Moutazilites. Parce qu'une partie des Moutazilites a dit, le califat est une obligation religieuse, donc instaurer un État selon des normes musulmanes est une obligation religieuse, et le plus en droit d'être calife doit être le plus méritant. En ça, ils étaient d'accord avec les Kharijites. Mais ce qu'ils ont dit aussi, une autre partie, et c'est celle qu'on adopte aujourd'hui, hein, pour tout vous dire, c'est de dire, le califat, c'est-à-dire l'établissement d'un État répondant à des normes religieuses, n'est pas une obligation islamique. Ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire. Et on s'appuie sur ce que disait l'imam al-Assam, qui disait que si les populations cessaient d'être injustes, il se passerait d'imam. Imam au double sens. Imam mosquée, mais aussi imam chef de communauté. Donc, à partir de là, on ne pense pas la question de l'ordre de faire le convenable et d'interdire le blâmable sous un aspect politique. On ne pense pas à cette question de filiation-là avec un calife, etc. Donc, comment comprendre? Il y a la compréhension purement éthique. C'est-à-dire, on doit agir conformément à l'éthique et ce qui, en fait, est en harmonie avec le reste, avec les quatre premiers, hein, avec l'ordre de faire le bien, avec la promesse du paradis, la menace de l'enfer, avec la demeure intermédiaire et surtout avec la justice de Dieu et le tawhid. Tout ça, ça forme un tout cohérent. Et donc, l'amr ma'ruf wa nahy an munkar, pourquoi c'est très important? Ma'ruf ne veut pas dire faire le bien. Ma'ruf veut dire faire le convenable. Ça vient de urf, la coutume, les us et coutumes, donc ce qui est connu et ce qui est fait. Donc ici, l'ordre moral de faire le bien, il est traduit par ma'ruf, c'est-à-dire que comme les sociétés sont dynamiques, bien sûr qu'il y a un bien qui reste commun, qui reste le même et qui ne bouge pas. Mais il y a aussi, dans les pratiques des humains, beaucoup de changements. Et ici, le verset coranique, il dit « l'amr bil ma'ruf ». Il ne dit pas « l'hassan », il dit « le ma'ruf ». C'est-à-dire que ce qui est connu, ce qui est admis. Et de même, « al-munkar », ce qui est considéré comme négatif, comme mauvais. Mais tout en reconnaissant une base morale au bien et au mal, ça laisse quand même une conception dynamique, c'est-à-dire en mouvement, de qu'est-ce qui est admis et qu'est-ce qui n'est pas admis. Et vous voyez qu'entre deux sociétés, il y a des choses qui vont être admises dans l'une et pas dans l'autre. À partir du moment où ça ne touche pas les fondements de la religion, où ça ne touche pas les valeurs universelles, parce qu'il y a des valeurs universelles. Le meurtre est universellement condamné. Peu importe que vous soyez dans une société religieuse ou pas, le meurtre est condamné, ainsi qu'un certain nombre de crimes, comme le vol, etc. Il y a des choses, c'est ouais, mais des choses qui ne bougent pas, mais il y a tout autour des choses qui se meuvent, qui sont en mouvement. Et donc cette conception-là, éthique et dynamique, elle est reconnue dans le Coran déjà, elle est reprise et assumée dans la pensée moutazilite.